Jean, au chapitre 15. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire en même temps que moi. Sinon, vous pouvez simplement écouter la lecture que j'en fais. Jean, au chapitre 5, et comme je le disais, je pense que le texte est imagé, que les enfants peuvent en tirer des choses, et je vous poserai une question, les enfants, après la lecture de ce texte. Évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 1. C'est Jésus qui parle. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruits, mais il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit, afin qu'il encore porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans être uni à la vigne de même. Vous non plus. Vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment, et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples, tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné une mission afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande donc, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Alors, j'avais dit que je posais une question aux enfants. Qu'est-ce que vous retenez de ce texte? De quoi parle ce texte? Est-ce que vous voyez une image que vous retenez dans ce discours de Jésus? les enfants sèchent un peu. Est-ce que... Oui. Il faut s'aimer les uns les autres, sinon on ne sert à rien. Oui, c'est effectivement l'essence de ce texte. Et avant ça, James... Exactement, c'est l'image d'un rameau, d'un sarment dans la vigne. Et là, je ne sais pas s'il reste encore beaucoup de choses à dire pour moi, puisque vous avez vu les deux grandes parties du texte. À la fois l'image de la vigne et ce commandement de l'amour, sinon on ne sert à rien. Je trouve intéressant de lire un texte écrit par l'apôtre Jean. J'ai l'impression que très souvent, on lit plutôt Paul, qui a un discours analytique très logique. Il parle d'un problème et il développe un raisonnement. C'est facile à suivre, alors que Jean, c'est pas du tout ça. Jean, je trouve, ça ressemble un peu à un tableau. Quand on écoute la lecture, quand on le voit de loin, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Et puis, on a envie de passer à autre chose, mais quand on s'approche et qu'on regarde dans le détail, de détail en détail, on va de plus en plus loin. Et puis, en regardant dans le détail, des fois, on ne comprend pas tout, un peu comme quand on regarde un tableau d'un peu trop près, on voit des traces de peinture, de couleurs qui ne nous parlent pas, et pourtant, qui font sens dans leur ensemble. C'est un texte qui vaut la peine de méditer, de lire lentement, peut-être de lire avec un crayon pour noter au fur et à mesure ce qu'on trouve. Et ici, donc, le tableau représente une vigne. Et Jésus commente ce tableau, cette image, pour tirer des enseignements et pour parler d'amour. Voilà ce que nous dit ce texte, ce dont parle ce texte. L'image de la vigne, donc. Une vigne. Et quel est le but d'une vigne? À quoi ça sert, une vigne? Ça me semblait être une question facile. James, apporter du fruit. Et quoi comme fruit? Du raisin, absolument. Une vigne, son but, c'est de produire du fruit, faire pousser du raisin. Et dans une vigne, à côté d'une vigne, il y a un vigneron qui s'occupe de la vigne. Et le but de ce vigneron, c'est de produire une récolte. Alors, il agit pour ça. Quand le raisin est mûr, il le récolte. Mais avant, il s'occupe de la vigne, il la taille, il l'entretient. Une vigne, un vigneron, et sur la vigne, il y a un cep. Le cep, c'est le tronc de la vigne. C'est là où sont attachées les branches, les sarments. Ce sont les sarments qui portent du fruit. Et le cep, eh bien, il sert à porter les sarments. C'est lui qui a les racines. C'est lui qui tire du sol les nutriments et qui les envoie vers les sarments, qui les alimente. Et ainsi, ils sont capables de porter du fruit. Et Jésus nous dit que c'est dans cette image, eh bien, chaque élément représente quelque chose de particulier. Le vigneron, c'est le Père, Dieu. Le cep, c'est Jésus, le Fils, et les sarments, ce sont ses disciples. Ceux qui l'écoutaient au premier siècle, quand il a fait ce discours, c'est nous, aujourd'hui, qui l'écoutons toujours. Et je crois que quand on se saisit de cette image, on comprend que les sarments, c'est-à-dire nous, avons l'obligation de porter du fruit. C'est à ça que nous servons, c'est ça qui est attendu de nous, porter du fruit. Et c'est bien présent dans le texte, puisque les sarments qui ne portent pas du fruit sont retirés, jetés à terre, mis au feu. Je ne sais pas vous, mais du coup, je trouve que ça met un tout petit peu de stress. Est-ce que je porte du fruit? Qu'est-ce que c'est porter du fruit? Qu'est-ce que c'est un fruit dans la vie courante? Qu'est-ce que c'est un fruit? Abigail, tu as quelque chose que tu veux dire? C'est un aliment, absolument. Un fruit, c'est un aliment, quelque chose qui se mange. Ouais. Il pousse obligatoirement sur quelque chose, c'est vrai. Il n'est pas comme ça de façon spontanée. Abigail ? Sur de la terre. Plutôt sur une plante, sur un arbre, hein, qui lui est dans la terre. James ? Pardon, j'ai pas entendu. Ça vient du cœur de la plante et ça l'enrichit. Tu trouves que le fruit enrichit la plante. Ben, c'est vrai que ça donne un sens à la plante. Là, c'est l'automne et chez mon père, il y a plein de pommiers qui donnent des pommes. Et c'est vrai que pendant une dizaine de mois, on se demande à quoi ça sert cet arbre, à part être un arbre, avoir des feuilles et produire de l'ombre. Et pendant 2 mois, on se rend compte que ça donne des pommes. Et on aime manger ces pommes, ça donne du sens, ça l'enrichit. Un fruit, c'est quelque chose qui se mange, c'est quelque chose qui se voit. C'est aussi quelque chose qui est sucré, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est apprécié par ceux qui le mangent. C'est quelque chose qu'on aime trouver sur un arbre, qui donne du sens à un arbre, qui nous émerveille. Du coup, ça pose la question, comment faire pour porter du fruit, puisque c'est ça qu'on nous demande. Comment faire pour porter du fruit? Jésus répond à cette question dans le texte. Est-ce que vous avez saisi sa réponse? Jésus dit, pour porter du fruit, il faut demeurer en lui. Et c'est vraiment un des enjeux du texte. Quand on regarde le texte, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la lecture, mais le verbe « demeurer », il est présent 8 fois dans le texte. Assez court. En français, on n'aime pas les répétitions. Et il y a 8 fois le mot « demeurer », le verbe « demeurer ». Et 5 fois, il a l'impératif « demeurer en moi ». Et 3 fois, c'est « demeurer uni ». Et ce mot « uni », il est présent 9 fois dans notre texte. « Demeurer uni ». Je vais relire 2 versets, le verset 3 et le verset 5. Vous, non, je me suis trompé, c'est pas le verset. Voilà, c'est le verset 4. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais du coup, ça pose une question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit que ce discours, Jésus l'a prononcé avant de quitter ses disciples. Comment est-ce qu'on peut rester uni à Jésus qui s'en va, qui nous quitte? Pour ses disciples, c'était quelque chose de concret, rester uni avec Jésus. C'était rester avec lui, marcher avec lui jour après jour, dormir avec lui là où il s'arrêtait, repartir. Écouter ses paroles, faire ce qu'il demande, vivre ensemble, quoi. Demeurer unis. Comment ça va être possible s'il part? Alors nous n'avons jamais marché avec Jésus comme ils l'ont fait. Mais laissons-nous interpeller quand même par le contexte. Il y a une vraie question. Comment demeurer unis à Jésus? Et c'est pour ça que après l'image de la vigne, Jésus explique cette image. Il donne des clés de compréhension et j'ai relevé 3 clés de compréhension. La première, elle est au verset 9 où Jésus dit « Demeurez dans mon amour ». Pour rester uni à Jésus, il faut demeurer dans son amour. Jésus le dit. Il aime ses disciples. Il les a aimés d'abord. Comme le sarment, la branche, ne choisit pas le cep sur lequel elle se trouve, elle se découvre sur le cep. Il en est de même pour les disciples. C'est Jésus qui les a choisis et qui les a aimés d'abord. La vocation du disciple, ce n'est pas d'essayer d'inventer un amour pour Jésus, c'est de rester dans l'amour qu'il a reçu, l'amour que Jésus lui a porté. C'est un peu comme un enfant, en fait. Un enfant ne choisit pas ses parents. Il découvre qu'il a des parents qu'il aime, normalement, des parents qui aiment leurs enfants. Et de façon naturelle, il répond à cet amour pour demeurer dans cet amour. Demeurer en Jésus, c'est demeurer en son amour. C'est la première clé de compréhension. La deuxième clé de compréhension, elle est au verset 10. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. » Pour demeurer dans l'amour de Jésus, il faut obéir à ses commandements. Et j'ai pris l'image de l'enfant qui reste dans l'amour de ses parents. Eh bien, d'un enfant, il est attendu qu'il obéisse à ses parents. Alors, je ne parle pas forcément des enfants qui grandissent, des enfants adultes, où là, c'est d'autres choses, les choses changent et il y a d'autres enjeux. Mais pour l'enfant, il est attendu qu'il obéissent à ses parents, même quand ils ne sont pas là. C'est pas facile, c'est pas toujours fait. Je sais pas les enfants ce que vous en pensez, si c'est facile d'obéir aux parents, mais il y a la place pour se tromper, pour se demander pardon, pour avoir une nouvelle chance. C'est un apprentissage et c'est le but. Obéir pour rester dans l'amour qui est reçu. Il faut bien comprendre ça, dans l'amour qu'il y a entre Jésus et nous, ce n'est pas un amour de pair à pair, entre deux personnes égales au même niveau. Ce n'est pas par exemple comme une relation amoureuse où les partenaires sont à un niveau équivalent, deux adultes responsables. Jésus, il est au-dessus de nous. Il est Seigneur. C'est notre maître, notre enseignant, c'est, si on reprend cette image, le cep, celui sur lequel nous sommes fixés, celui qui nous alimente, qui donne la vie, la source de notre vie. Nous ne sommes pas équivalents et ce qui est attendu, c'est de rester dans cet amour que nous avons reçu et d'obéir à ses commandements. Obéir à ses commandements, demeurer dans son amour. La troisième clé de compréhension, je la trouve au verset 12. Lorsque Jésus dit « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus passe du pluriel « mes commandements » au singulier « mon commandement ». Et avec ce commandement, il propose un résumé. Un résumé de ce qu'il a dit, un résumé de son enseignement. Et pour le lecteur des évangiles, ce n'est pas une surprise totale. Les autres évangiles ont parlé du plus grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée. Et le deuxième commandement qui est équivalent. Son prochain, comme soi-même. Si nous nous aimons les uns les autres, nous obéissons à ses commandements. Nous demeurons dans son amour. Nous demeurons unis à lui. Et nous portons du fruit. Voilà ce que Jésus dit ici. J'ajoute très rapidement une promesse qui se trouve dans ce texte. Deux fois, Jésus promet ce que vous demanderez, le Père le fera. Et je crois que ça nécessiterait un commentaire plus long pour creuser, mais retenons que lorsque nous sommes unis à Jésus, le Père est avec nous. Il pourvoit, il nous équipe. Nous ne sommes pas seuls. Je m'arrête là. Pour la méditation du texte, j'aimerais tracer quelques pistes d'application. Pour nous qui, aujourd'hui, nous séparons pour un temps indéterminé, partons en confinement. Comment traverser cette période? Comment continuer à porter du fruit? Et je crois que ce que nous pouvons retenir, c'est le commandement de Jésus de nous aimer. Et ce commandement, il a l'air tout simple, hein, et en même temps, je crois qu'il n'est pas si simple. Parce que je crois qu'on ne sait pas forcément aimer. On a tous notre définition de l'amour. Le monde nous donne une définition. On a cette définition basée sur ce qu'on connaît, basée sur ce qu'on attend, basée aussi sur ce qu'attendent les autres, avec des injonctions. Si tu m'aimes, alors fais ceci, fais cela. Mais Jésus vient nous apprendre comment aimer. J'ai relevé quelques paroles clés du Nouveau Testament. Aimer, c'est aimer comme nous-mêmes, en traitant les autres comme nous nous traitons nous-mêmes. Ce n'est pas moi d'abord, les autres après. Je les considère comme je me considère. Aimer en faisant aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse. Se mettre à leur place. Aimer en considérant les autres supérieurs à nous-mêmes, c'est-à-dire que leur intérêt est à prendre en compte avant le mien. Ce que je peux apporter est plus important que ce qu'ils peuvent m'apporter. Aimer en servant. C'est l'exemple que Jésus a donné juste avant, lors du dernier repas, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Aimer en donnant sa vie pour ses amis. Jésus le dit au verset 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, j'aimerais laisser un avertissement sur cette parole, parce que cette parole, ce n'est pas une invitation à laisser les autres abuser de nous. Jésus l'a montré lorsqu'il était sur terre, il est resté maître. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Donner sa vie en apportant aux autres ce dont ils ont besoin et pas forcément ce qu'ils demandent. Avec cette définition que donne Jésus, aimer n'est pas si facile. Comment le faire? Et là, je me souviens de cette autre parole de Jésus que nous avons lue. Demeurer en lui, demeurer en Jésus. Et demeurer en lui, c'est garder l'enseignement qu'il nous a donné. Rester à son écoute à travers la lecture de la Bible, rester à son écoute dans la prière. Ce sont là des basiques, je suis sûr que vous avez déjà entendu ces directions. Mais je crois qu'il n'y a pas mieux. Alors attention, il n'y a pas trois commandements, lire la Bible, prier et aimer. Aimer et lire, prier, passer du temps avec Dieu pour apprendre à aimer et faire ce qu'il nous demande. Nous aimer, demeurer en Jésus et porter du fruit. Parce que c'est ça notre vocation, alors que nous sommes sarments. Et Jésus le dit, je vous ai choisi, je vous ai donné une mission afin que vous alliez et vous portiez du fruit. Quel est ce fruit que nous pouvons porter? Pendant les vacances cet été, nous avons parlé du fruit de l'esprit. Laissez en nous se développer le caractère de Dieu, de Jésus, et laisser transparaître amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Faire grandir ce fruit en nous pour porter du fruit. Mais porter du fruit, c'est également le porter à l'extérieur. Et que d'autres deviennent disciples, comme on le voit dans d'autres paraboles, où les nouveaux disciples sont vus comme les fruits qui viennent des chrétiens. Comment faire en étant confiné? Je crois que malgré le confinement et, les réductions des interactions sociales, les occasions seront là. Face à l'inquiétude, apporter la paix. Face à l'agressivité, apporter l'amour. Face à la difficulté, vivre la joie aux yeux de ceux qui nous observent. Et témoigner. Témoigner de celui qui nous pousse à ces attitudes dans nos vies. Transmettre que l'invitation est ouverte et laisser l'esprit agir. Mes amis, nous sommes dans un temps particulier, un temps où nous nous séparons et où ce n'est pas nous qui décidons quand nous nous reverrons. Et on peut être un peu perdu à ce moment. Et je pense que quand on est perdu, c'est une bonne chose que d'écouter les directions données par notre Seigneur, les directions qu'il a données à nos grands frères, ceux qu'il a choisis et qui ont marché avec lui, alors qu'ils étaient dans une situation d'incertitude un peu similaire à la nôtre. Même confinés, notre mission reste la même, celle d'aller et porter du fruit. Et le moyen de porter du fruit reste le même, demeurer en lui et nous aimer les uns les autres. Le confinement nous limite, certes, mais les occasions restent. Demeurons en lui, lui demeure en nous. Amen.